Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour ce nouvel épisode dans le viseur de récits d'opération, de récits de moments de vie militaire. Aujourd'hui, pas en partenariat avec une institution, mais j'ai le plaisir de recevoir William. Bonjour William.
Bonjour.
Alors c'est le premier d'une série d'un certain nombre d'épisodes où vous avez généreusement accepté de venir nous raconter certains épisodes de votre vie militaire. Alors je précise que vous étiez dans les forces spéciales, Force Spéciale Air. À l'époque de la première histoire qu'on va raconter, vous étiez vous avez toujours été sous-officier, vous étiez quoi, adjudant à l'époque ?
Non, à l'époque j'étais sergent-chef de mémoire.
Sergent-chef. Et donc, première histoire je crois, en Irak ?
Oui, tout à fait. Donc la première histoire se déroule en Irak. Nous sommes deuxième partie de l'année 2016 et comme tous les médias le présentent au niveau mondial, nous sommes sur la réduction de l'emprise territoriale de l'État islamique et notamment du bastion de la ville de Mossoul.
Et donc en 2016, c'est tout bête, mais bon, déjà ça faisait longtemps que vous étiez déjà en fait que vous étiez dans les armées, puis que vous étiez force spéciale et puis que vous étiez sur zone. C'est-à-dire, ça se place où, cet épisode que vous allez nous raconter, au sein de votre carrière militaire, de votre vie opérationnelle, disons ?
Alors, basiquement, ça se situe dans le dernier tiers de ma carrière militaire. Je suis rentré au début des années 2000 dans l'armée de l'air. Et mon parcours a évolué et j'ai fini par rejoindre le monde des opérations spéciales au milieu des années 2010. J'ai fait mes formations, les différents stages, et puis j'ai intégré un groupe action.
J'en sais rien. C'est fréquent de se mettre aux opérations spéciales à un moment de la carrière, ou est-ce que, je sais pas, dans vos camarades, en général, ils avaient plutôt commencé par là. Enfin, je veux dire, est-ce que c'est fréquent de décider à un moment de se lancer dans les opérations spéciales ?
Je dirais qu'il y a trois profils. Le premier profil, qui représente la majorité, vous avez en fait les gens, quelles que soient les armées, je pense, qui directement visent les opérations spéciales, et du coup la branche infanterie, commando, fusilier marin, fusilier commando de l'air, en vue d'aller dans une des unités des opérations spéciales. La deuxième catégorie, c'est ces mêmes personnes, mais qui ne se destinent pas obligatoirement aux opérations spéciales. C'est-à-dire, je prends l'exemple dans l'armée de l'air, prenez quelqu'un qui va en escadron de protection, donc la protection des bases aériennes sur le territoire national ou à l'étranger. Et peut-être que cette personne, pendant 5-10 ans, elle sert dans ce milieu-là qui lui convient, et au bout d'un certain temps, elle se trouve des vocations ou elle se trouve le besoin d'aller rechercher plus, et du coup elle se tourne vers les opérations spéciales. Et enfin, la troisième catégorie.
Dans tous les cas, c'est toujours volontariat, quoi. C'est pas on vient vous chercher en vous disant tu serais bien comme commando.
C'est très très rare que des profils peuvent être identifiés, et là où il pourrait avoir une petite opération séduction en disant on suppose que tu as les qualités et les capacités pour nous rejoindre. Mais c'est extrêmement rare. Il y a peut-être un ou deux cas, guère plus. Et du coup, je reviens à la troisième catégorie. C'est les gens qui faisaient une autre spécialité et qui, de par leur parcours, ont eu envie de basculer, ont eu envie de plus d'action, plus d'engagement, plus d'aventure, d'être plus opérationnel, d'être plus en unité de combat, et qui se tournent vers les opérations spéciales.
Alors, pour vous, c'est plutôt la troisième catégorie ?
Moi, je suis totalement de la troisième catégorie parce que j'ai eu un parcours où j'étais notamment mécanicien avion dans l'armée de l'air. Et je me suis essayé aussi à la formation pilote et navigateur de combat, ce qui n'a pas abouti. Donc, voulant à tout prix servir, aller dans une unité de combat et connaître cette aventure, enfin m'accomplir en fait, et bien en fait je me suis tourné vers les opérations spéciales. Savoir qu'il n'est pas toujours facile, les passerelles ne sont pas évidentes, parfois il y a des négociations à faire avec les ressources humaines, parfois ce milieu-là prévoit déjà des passerelles avec des changements de spécialité possibles.
Et donc, Donc, dans les années 2010, vous arrivez dans les forces spéciales. Et là, donc l'Irak, la lutte contre l'État islamique, ça, vous aviez déjà été déployé souvent, ou est-ce que c'est plutôt parmi vos premières opérations extérieures ? Enfin, je veux dire, ça se situe où dans votre progression de carrière en tant que force spéciale aérienne ?
Alors, ça se situe, c'est mon deuxième déploiement pour les forces spéciales air. Habituellement, ce qui se fait, je pense, dans toutes les armées, ce qui se faisait chez nous et ce qui est, à mon sens, bien, c'est de faire une gradation dans les engagements des jeunes opérateurs. Jeunes, pas en termes d'âge obligatoirement, en termes d'expérience et de capacité. C'est-à-dire qu'on commence par une mission plutôt tranquille, où il n'y a pas obligatoirement du combat, formation de partenaires, ainsi de suite. Après, une mission plus axée, peut-être renseignement ou combat lointain ou support ou appui de partenaires. Et enfin, la mission d'action directe, où là, il s'agit d'aller capturer en priorité, voire neutraliser l'ennemi. Et du coup, moi, j'avais fait une première mission de formation du partenaire. J'étais rentré plusieurs mois, et c'était donc ma deuxième OPEX au sein des opérations spéciales, du coup en Irak, contre l'État islamique.
Bon, alors, à ce moment-là, ça se présente comment Mossoul, l'équation de Mossoul. C'est-à-dire, on sait que ça a été l'un des bastions de l'État islamique, ça a été la grande ville qu'ils ont prise et sur laquelle ils ont assis une bonne partie de leur puissance et de leur emprise territoriale. Après, au moment où vous arrivez, ça fait déjà un certain temps qu'il y a des frappes, il y a des opérations qui sont probablement bien affaiblies par la voie des airs et pas que. Voilà, à ce moment-là, quand vous arrivez, ça se présente comment l'équation État islamique à cet endroit-là ?
À ce moment-là, l'État islamique est certes affaibli par plusieurs mois ou par même plusieurs années. On est sur environ 2 ans d'engagement de la coalition contre ce califat. Mais elle est encore, l'État islamique est encore extrêmement robuste, avec des moyens autant humains que matériels et un savoir-faire qui est encore conséquent et qui reste strictement et largement dangereux. Nous, on est déployé sur le théâtre et le début de l'offensive ne se fait que plusieurs semaines après. On a eu le temps de jauger le terrain et l'ennemi. Donc on sait à qui on a affaire. Ou du moins, on s'est fait une image de l'ennemi.
Et vous en aviez vu ? Je veux dire, vu physiquement ou pas ? Parce que, s'ils sont dans une ville ou vous êtes en dehors de la ville, même si vous préparez le terrain, etc., il n'y a pas de fatalité à ce que vous tombiez nez à nez avec...
Concrètement, c'est ce qui est, de toute façon, c'est ce qu'il en est ressorti, c'était qu'il y avait une vraie ligne de front. Or, une ligne de front qui, à certains endroits, pouvait faire penser à une ligne de la Première Guerre mondiale, avec une tranchée, des casemates, des postes d'observation, avec des sacs de sable, des abris contre les tirs indirects. Et à plusieurs centaines de mètres ou plusieurs kilomètres, ça dépendait des secteurs, il y avait une ligne de front similaire de Daesh en face, qui était bien évidemment moins... qui avait tendance à être plus camouflée, plus fondu dans le décor que la nôtre, étant donné que nous avions l'avantage de la 3D pour nous et qu'ils étaient frappés quotidiennement.
C'est la troisième dimension. Donc voilà, pour le dire clairement, vous n'aviez pas à vous soucier d'un raid héliporté ou d'une attaque aérienne, alors que eux, c'était quand même leur problématique essentielle au quotidien.
C'est ça. Néanmoins, l'aspect 3D, il le maîtrisait en partie, j'y reviendrai par la suite. Mais par contre, oui, ils n'avaient pas d'aviation, pas de quoi nous nuire, ou du moins pas de quoi transposer du personnel, faire le saut de puce au-dessus de nos lignes. Par contre, ils ne se sont pas gênés avant, pendant cette période, et même encore après, à tenter des coups de main type Deuxième Guerre mondiale en faisant des assauts contre cette ligne fortifiée, voire essayer de franchir cette ligne fortifiée pour attaquer des objectifs en arrière à quelques centaines de mètres ou quelques kilomètres de cette ligne de front. Donc on est sur une ligne de front avec des barbelés, des postes d'observation, des sacs de sable, il y a des attaques aux mortiers, à l'artillerie, et ainsi de suite. Et du coup, nous, on a eu le temps de les observer. Alors, on ne les a pas eu le temps de les observer à 5, 10 mètres ou 20 mètres ou 50 mètres, mais on les a observés entre plusieurs kilomètres, voire quelques centaines de mètres. Voire, on avait...
Vous voulez dire au moment de les repousser, quoi.
Oui. Quelques semaines avant Mossoul, on était sur un secteur du front en observation, en appui et support du partenaire, hein, bien évidemment. Et à ce moment-là, on a subi une attaque au petit matin. Une attaque, un raid en fait, monté par les forces de l'État islamique, avec du tir indirect, mortier, roquette ou autre. Et puis, on peut les appeler, des personnes qui utilisaient des techniques commando pour s'infiltrer au plus près et puis attaquer. Une attaque coordonnée, quelque chose de bien mené sur notre position. Et bien sûr, bien évidemment, avec le partenaire, nous les avons repoussés.
Les attaques comme ça, mais c'était quoi? Ils sont 5, 10, 50 c'est quel...
Ça dépend des secteurs du front. Il y a eu tout. Moi, ce jour-là, on a supposé qu'il y avait plusieurs dizaines de combattants. Alors, peut-être pas plusieurs dizaines à s'approcher... à quelques dizaines de mètres ou à quelques centaines de mètres de nos positions. Mais néanmoins, il y avait forcément un module en arrière pour gérer les tirs indirects, mortiers sur nos positions. De même pour gérer les tirs armes lourdes, parce qu'il y a des mitrailleuses lourdes de mémoire, les tirs de roquettes. Ils avaient un module qui s'était avancé au plus près en utilisant le relief durant la nuit, pour se mettre en position, et forcément, pour monter ce genre d'attaque, il y a un échelon commandement. Donc oui, on était sur quelques dizaines de combattants ennemis.
Bon, donc ça, vous aviez pu avoir un petit goût quand même de ce qu'ils savaient faire, en tout cas de leur niveau de sophistication. Et donc l'histoire, l'épisode, c'est quand même de reprendre la ville, de pénétrer dans la ville et de les enchasser. Alors... peut-être comment ça s'est présenté, puis surtout, qu'est-ce que c'est votre rôle là-dedans, c'est-à-dire en tant que force spéciale air? C'est bête, mais est-ce que vous restez entre force spéciale air? Est-ce que vous êtes mélangé avec d'autres forces spéciales pour, j'imagine, avoir une complémentarité de compétences? Voilà, comment est-ce que... C'est quoi le portage? C'est quoi l'organisation et votre place dedans, quoi?
Alors... globalement, on fonctionne de la même manière que sur les théâtres antérieurs, depuis ce qui se fait sur l'Afghanistan ou autre. C'est-à-dire qu'il y a une mission, il y a une opération à mener. On convoque les trois armées, donc les forces spéciales des trois armées, et on crée des modules plus ou moins gros, où on mélange les capacités et les spécificités de tout le monde pour avoir l'outil le plus adéquat et le plus efficace à l'instant T sur un théâtre d'opération donné. Donc nous, on n'était pas contre le personnel de l'armée de l'air. On était mélangé avec des gens notamment de l'armée de terre, mais aussi de la marine. Et en fait, comme le travail qui avait été accompli par nos prédécesseurs durant les quelques mois ou quelques années avant, en fait, on était là en... appui, formation et appui du partenaire. Donc en fait, on le formait, le partenaire, on le formait au combat, ou du moins, c'était déjà un combattant de base, c'était quand même des contrées où les gens ont globalement, ça fait 30, 40 ans ou plus, ou même 60 ans, qui connaissent les conflits armés. Donc ils ont déjà un socle certain, et à nous de les monter pour être à même de libérer les territoires qui avaient été conquis par les djihadistes.
Là, en l'occurrence, juste parce qu'il y avait une confusion, c'était l'armée irakienne ou c'était les Kurdes?
Les deux. Et du coup, on forme les gens et... là, le volet était plutôt sur un accompagnement. Donc, des capacités qu'ils n'ont pas, on essaie de leur proposer, de leur mettre à disposition. Et on travaille de toute manière en collaboration avec la coalition. Et en fait, c'est réellement tout un bloc de différents pays, la majorité occidentaux, mais pas que, qui se sont ligués pour défaire l'État islamique. Donc nous, on est un petit rouage, en fait. On va aider les partenaires locaux à se défaire de cette invasion.
Et donc, accompagnement, alors c'est flou, parce que ça, on imagine que ça peut être donc de la formation, de l'appui, puis ça peut être aussi que vous les accompagnez littéralement, quoi, physiquement. Là, en l'occurrence, il s'agissait de quoi pour enfin, je veux dire, c'était quand même le gros morceau, la bataille de Mossoul. On avait déjà eu des témoignages d'artilleurs, notamment sur cette bataille de Mossoul. Enfin, c'était pas rien, quoi. C'était un truc de très haute intensité au sein de ce genre de conflit, quoi.
Alors, nous, quand je dis nous, c'était les gens des opérations spéciales, quelles que soient les unités, nous n'avions pas vocation sur ce théâtre à aller faire de l'action directe. C'était pas la politique. Les gens avaient besoin de nous, les partenaires, les différents partenaires, à nous de les aider. C'est ni plus ni moins que ça. Donc en fait, on accompagne les gens. Mossoul a été énormément médiatisé. Mais le but du jeu, c'était pas de faire une guerre de coalition décorrélée et en avant de la guerre des locaux. C'est plutôt aider les locaux à faire leur guerre et surtout pas aller en première ligne. Voilà. Mossoul, la grosse problématique, c'était... l'enjeu, plutôt, c'était... Moi, j'avais l'impression d'avoir affaire à une bataille de la Deuxième Guerre mondiale. C'était réellement... énorme, c'était international, les enjeux étaient considérables, la médiatisation était démentielle et même trop, puisque nous, en fait, limite notre agenda, l'agenda pas de la France, hein, l'agenda de la coalition, était diffusé dans tous les quotidiens, midi et soir, sur les chaînes de grande écoute. Si bien qu'en fait, l'aspect surprise, comme il y a pu avoir pour le débarquement ou des choses comme ça, ben en fait, il n'y était strictement pas. Parce qu'en fait, les médias diffusaient tellement de choses que l'ennemi en face n'avait qu'à regarder tous les médias et il pouvait donner la fenêtre de début de l'offensive, quoi, sans trop de problèmes.
Vous pensez que les djihadistes regardaient beaucoup BFM ?
Or, les djihadistes français, j'imagine qu'ils devaient regarder BFM ou ce genre de chaîne. Mais à mon avis, les djihadistes, par capacité linguistique et par origine géographique, ils regardaient tous les médias pour avoir les dernières infos. Et j'imagine qu'il y a eu des gens qui n'ont passé leur bataille qu'à écouter les médias internationaux pour... récupérer de l'information sur les opérations. C'est un point de vue personnel. Hein, mais...
Et alors donc, comment ça s'est passé, puisque donc il s'agissait de leur fournir ce dont ils avaient besoin. De quoi est-ce qu'ils avaient besoin? Et disons comme ça, qu'est-ce que vous avez fait pendant cette bataille de Mossoul?
Donc nous, on a débuté la bataille de Mossoul avec des partenaires avec lesquels on avait travaillé les semaines précédentes. Donc on les connaissait. Le but du jeu, on leur fournissait, en fait, le lien pour avoir de l'appui aérien, pour avoir de l'information ou du renseignement via tous les capteurs aériens, avions, drones, ainsi de suite. Et globalement, c'était la grande partie. Et les aider à évaluer la menace et le dispositif ennemi. Donc voilà nous ce que voilà le grand pilier sur lequel on appuyait. Donc nous on était un module comme je vous ai dit de plusieurs unités mélangées et le but du jeu sur un secteur du front c'était d'accompagner l'offensive du partenaire. Et de lui fournir l'appui aérien, un appui, voire un appui tir indirect si on était ou si on avait été dans une zone de portée des Césars, hein, puisque vous en avez parlé dans un précédent épisode, ainsi de suite. Et une capacité renseignement, parce que forcément, on est capable de voir peut-être un petit peu plus loin que le partenaire. Et de décortiquer plus de choses, ne serait-ce que par la formation pure des gens, des opérateurs en France.
Donc quoi, vous les draviez à distance, quoi ? Vous les suiviez, quand ils vous demandaient quelque chose, vous leur disiez « ça c'est pas possible, c'est pas possible ».
Je prends un exemple, on les suit, alors un exemple qui s'est réalisé ou non, mais on les suit. À un moment donné, blocage, donc embuscade ou attaque de l'ennemi, que ce soit attaque directe, tir direct, arme d'infanterie, mitrailleuse lourde, ou que ce soit mortier, roquette, ainsi de suite. Nous, on observe, on essaie de trouver l'origine de la menace.
Vous observez comment ? Par les drones ?
On a différentes façons d'observer. Hein. Bon, aujourd'hui, c'est sûr que tout le monde pense aux drones, mais ce serait... Enfin, c'est un secret de polichinelle de dire qu'on utilise ou n'utilise pas de drone. Donc en fait, on utilise ce qui est à notre portée. On utilise comme ce qui pouvait se faire dans la marine à voile, des jumelles, des longues-vues, ainsi de suite. Et en fait, on essaie de déceler précisément les origines des tirs. On valide ça avec nos partenaires. Et après, ça remonte dans une chaîne, mixte, coalition partenaire, jusqu'à validation. Après, on prend le moyen qu'on a sous la main, le plus efficace, pour réaliser la frappe s'il y a lieu d'une frappe. Donc voilà notre job, entre guillemets, durant ce mandat. Donc nous, on...
Et même physiquement, vous êtes où ?
Physiquement, on est avec eux, mais on n'est pas en premier échelon. Donc en fait, on n'est pas en avant. Eux font toutes les choses en avant et nous on est plus ou moins en arrière. Alors quand je dis plus ou moins, ça peut être c'est de l'ordre de la centaine de mètres ou de quelques centaines de mètres.
Ah ouais, d'accord. Non mais donc vous êtes dans la ville quand même.
Donc nous, moi ce que
vous êtes pas la pointe de la lance, mais vous êtes.
Non mais on est dedans, voilà, on est sur la lance. On n'est pas la pointe, mais on est sur la lance. Moi, j'ai fait le début de la bataille de Mossoul. Alors, à savoir que c'est un petit peu comme... Moi, j'ai beaucoup comparé Mossoul à ce que je sais de Stalingrad. Donc, nous, la première partie, c'était une partie plutôt en zone rurale. On était dans la campagne, donc les faubourgs. Donc, en fait, on a... Le secteur qui nous était alloué, c'était des petits villages avec des terrains, des champs, en fait. Et après... ça rentrait dans des zones plutôt industrielles, artisanales, et après, derrière, il y avait plutôt banlieue et cœur de ville. La bataille a duré plusieurs mois. Moi, je n'ai fait que la partie faubourg, donc plutôt campagne, et slash site industriel, zone artisanale. Donc, en ville, je n'y suis pas allé.
Mais c'était crescendo, plus on se rapprochait du combat urbain, et plus oui. Ça chauffait, quoi.
Voilà. Nous, on... en fait, il y avait. Nous, on a réellement fait les premiers jours. Donc, ce qui pouvait être facteur pour nous, on s'attendait à ce que la première ligne de défense, étant donné que c'était la ligne qu'ils avaient depuis plusieurs mois ou plusieurs années, qu'elle soit réellement valorisée. Donc, bien défendue, extrêmement piégée, parce que c'était des rois, des maîtres dans l'art du piégeage de n'importe quelle manière qu'il soit. Et on s'attendait à ce que la première ligne soit piégée. Après, cette partie campagne ou proche banlieue, qu'elle soit un peu plus molle. Et qu'après, on retombe sur une zone plutôt dure, en passant en zone industrielle et citadine pure. Donc,
voilà. C'était ça ?
C'était globalement ça. Alors, nous, le premier jour de l'offensive sur notre secteur, on s'est mis en place la veille dans la nuit. Et il faut imaginer, et c'est ça qui m'a frappé, parce que j'avais l'impression de voir des... Au petit matin, j'avais vraiment l'impression de voir des photos de la Deuxième Guerre mondiale colorisées. On est sur des centaines de véhicules, des colonnes de véhicules bien blindés, non blindés, tout type. On est sur des centaines de véhicules. Et on a une ligne de front qui s'ouvre.
Avec des véhicules le long de la ligne de front.
le long de la ligne de front, et quand avec des tirs d'artillerie dans la nuit ou au petit matin, et quand donc une préparation d'artillerie, et lorsque ça débute et que ils font un passage, si vous voulez, sur cette ligne de tranchée, on est réellement sur des colonnes comme les Panzerdivision dans les champs ukrainiens ou ainsi de suite. En plus, le décor, c'était vraiment tout sec, hein, parce qu'on est arrivé à la fin de la saison estivale. Tout est sec, tout est beige, tout est un peu ocre. Et donc, on est réellement sur des grandes étendues avec des villages et des colonnes de véhicules qui pénètrent dans le No Man's Land, slash, qui vont pénétrer les lignes ennemies. Donc, c'est vraiment marquant. On se dit...
Vos colonnes de véhicules.
Les colonnes du partenaire auquel on était...
C'est-à-dire, vous ouvrez une brèche au pied de biche, et puis ensuite...
On ouvre plusieurs brèches. Le partenaire ouvre plusieurs brèches. Réellement, il y a des engins de BTP qui font des pontons, qui remblaient des fossés pour permettre de passer. Et du coup, on a des colonnes, et là, on est réellement, on se dit... on n'est pas grand-chose, parce que ça nous dépasse. On est sur une offensive, peut-être la dernière grande bataille, bon, quoique depuis il y a eu l'Ukraine, mais jusqu'à l'Ukraine, c'était peut-être une des dernières grandes batailles citadines. Il y a eu Marawi aussi en Asie du Sud-Est, mais c'était vraiment frappant.
Donc vous déboulez à plusieurs dizaines de véhicules en colonne, etc., vous foncez Et ensuite, quoi, donc ça, vous êtes resté combien de temps?
Donc on...
Vous progressiez de combien? C'est-à-dire, est-ce qu'il y avait l'idée de... Bon, il faut qu'on y aille progressivement, on prend une zone, enfin, on procède en cercle concentrique, ou est-ce que vous essayez... Certains ont essayé d'aller directement un peu au cœur pour affaiblir le dispositif ennemi. Comment ça s'est... C'était quoi l'idée?
Alors, les partenaires, hein, kurdes, irakiens, ainsi de suite... avaient défini leur plan de bataille. C'est pas notre... Nous, on est là pour les aider, donc on n'a pas à interférer sur leur plan. Ils font leur plan de bataille. La coalition propose une aide en fonction du plan de bataille. Donc nous, le premier jour, les premiers jours sur le temps décisif, sur la petite surprise, surprise qui est pas vraiment une surprise, hein. En fait, on essaie de balayer la plus grande partie de la zone rurale, pour avancer sur les premiers faubourgs industriels le plus rapidement possible. Donc le but du jeu, là, c'est plutôt... Le partenaire, hein, qui l'a décidé, c'est d'avancer de plusieurs kilomètres, avec une certaine prudence, mais du coup, il faut un certain rythme aussi, de recréer une ligne de front, ou une légère ligne de protection, et après, de nettoyer tous les villages qui sont restés dans le dos. Donc nous, la première journée... Au petit matin, quand ça démarre, à la fin de la première journée, on a parcouru plusieurs kilomètres en zone ennemie. Et le partenaire a recréé des petits bastions, des petits fortins en quelques heures, dans lesquels on se positionne en fait en protection pour passer la nuit.
Et là, donc dans cette phase, qui est donc celle que vous avez essentiellement connue de nettoyer cette première zone, vous avez pris le feu. Enfin, qu'est-ce que vous avez vu en termes de résistance, quoi?
Alors, on a pris le feu de deux façons différentes. C'est-à-dire qu'on a pris le feu premièrement parce qu'étant donné que la manœuvre est tellement grande, lourde, monumentale, qu'en fait, c'était difficile pour notre module, qui est quand même relativement petit vis-à-vis de l'opération, de pouvoir être partout à la fois, de pouvoir aider les milliers de combattants de notre secteur partenaire, de pouvoir les aider. Après, on a pris le feu, oui, effectivement, on a rencontré de la résistance. On s'attendait à plus. Honnêtement, parce qu'on, comme avec les semaines précédentes, on connaissait les combattants ennemis, les djihadistes. Donc ce premier jour, nous avons eu des IED, donc des engins explosifs improvisés qui ont fonctionné ou pas. Nous avons eu des tirs de roquettes, nous avons eu des tirs soit de tireurs embusqués, soit de tireurs de mitrailleuses lourdes, donc assez loin, plusieurs centaines de mètres, voire de l'ordre du kilomètre. Nous avons eu des tirs de mortier, nous avons eu un véhicule suicide qui a essayé de tenter de rentrer dans le dispositif. Donc en fait, on a eu beaucoup de choses, beaucoup, beaucoup de choses. Nous n'avons pas eu de pertes, nous... Français, nos partenaires, donc les gens avec lesquels on a été, ils ont eu un certain nombre de pertes ce premier jour.
Et c'était des gens que vous connaissiez bien ? Enfin, je veux dire, c'est évidemment, c'est pas la même chose que de perdre un camarade des armées françaises, mais est-ce que, enfin, je sais pas, qu'est-ce que ça ?
C'était des gens de mémoire, c'était plus des gens de vue. En fait. Avant le début de la bataille, on avait assisté, aidé différents secteurs du front. Du coup, on avait rencontré différentes personnes, mais on n'avait pas obligatoirement approfondi les liens. Il y avait des personnes avec qui on avait approfondi les liens, parce que c'était un petit peu nos hébergeurs, entre guillemets. Et eux, il y avait des liens plutôt forts. Eux n'ont pas été, de mémoire, ils n'ont pas eu de pertes. Mais oui, il y a eu des pertes à quelques dizaines de mètres de nous, quelques centaines.
Ouais, il y a eu des moments où c'est pas passé loin, quand même.
Il y a eu des moments où c'est pas passé loin. Moi, j'ai l'anecdote, on est parti, on avait le véhicule blindé dans lequel j'étais. À la fin de la journée, il y avait un trou dans le rétroviseur. Un trou d'un projectile, hein, sniper ou... Enfin, le tireur... tireur embusqué ou mitrailleuse lourde. Donc réellement, oui, c'est pas passé loin. On a roulé à quelques centimètres d'une mine. Enfin, ce genre de choses-là, on s'y attendait.
Et ensuite, après cette première phase, mais qui est intense, mais raisonnable, enfin, en tout cas qui a l'air de vous avoir permis de bien entrer dans le bain, comment est-ce que ça s'est allé crescendo ? C'est-à-dire comment est-ce que voilà, comment s'est passée la deuxième partie de votre
opération ? Relativement bien, c'est-à-dire qu'il y avait un plan établi donc par le partenaire et du coup on a avancé le premier jour de quelques kilomètres. Là ils ont remonté un fossé et puis ils ont créé une espèce de protection, une espèce de ligne de démarcation. Avec une grosse utilisation d'engins de BTP. Les engins de BTP sont dans les colonnes de combat, en fait. Et du coup, après tous les villages qui avaient été laissés dans le dos, tous les jours, on a observé et réinvesti, fouillé tous les villages. Alors, parfois plusieurs villages, parfois un seul village. Et ça a duré plusieurs jours. Et il n'y a pas eu de choses... Il n'y a pas eu de choses notables parce que on peut considérer que l'ennemi avait donc il y avait toujours du piégeage, ce genre de choses là. Par contre, on a senti assez rapidement qu'ils avaient peut-être laissé des éléments retardateurs, mais que le combat réel, ils voulaient pas le mener. Ils voulaient embêter. Ils voulaient continuer à créer un climat de peur, mais c'est pas là qu'ils voulaient mener leur dernière danse.
Et ensuite, du coup, la dernière danse, vous n'allez pas vraiment la voir, puisque ça va durer longtemps. Mais comment est-ce que ça s'arrête quand pour vous, la bataille de Mossoul ?
Nous, ça s'arrête. Cette phase-là, on reste plusieurs jours. Et au bout d'un moment, toute cette zone, cette terre qui a été définie, on peut considérer qu'elle est nettoyée, libérée. Et à partir de ce moment-là, on reste un petit peu en observation de la prochaine part du gâteau et ils décident de nous retirer parce que nous on va arriver sur plutôt la fin de notre mandat, donc il va falloir faire la jonction avec le nouveau et puis faire la passation en fait de tout ce qu'on a fait. Du coup on continue à aller aider le partenaire. Mais sans rester 24 heures sur 24 avec lui, c'est plus sporadique en fait. C'est plus sporadique et puis notre secteur du front, à ce moment-là, il était un peu en latence ou en attente. Disons qu'il y avait un tempo entre les partenaires et le tempo, tout le monde n'était pas capable en moyen d'attaquer partout en même temps. Globalement, c'est ce qui en est ressorti, donc... Les gens se faisaient par priorité.
Et c'est frustrant? Ou vous aviez eu votre dose? Ou c'est comme ça? C'est-à-dire, comment... Parce qu'on imagine bien, enfin, je veux dire, personne n'a envie de mourir, mais en même temps, c'est votre métier que d'être au plus près, d'avoir des effets, et puis quand vous préparez une opération comme ça depuis longtemps, bon, j'imagine qu'on doit avoir envie de faire ce pour quoi on s'est préparé. Enfin, je veux dire, comment est-ce que vous, votre équipe, vos camarades, vous l'avez... Ça fait quoi d'assister juste à l'entrée, en quelque sorte?
Alors, premièrement, sur les mandats qui font plusieurs mois, nous, on avait eu l'occasion d'aider le partenaire à de multiples reprises. Que ça soit là, sur cette phase de la bataille de Mossoul, ou que ce soit au préalable, on avait réussi à déceler plusieurs objectifs terroristes sur lesquels il y avait eu des frappes, sur un certain nombre, il y avait eu des frappes aériennes. Avec une quasi-certitude, voire une certitude dans certains cas, de la neutralisation de ces unités terroristes. Donc, le job, pour parler familièrement, il avait été fait. Il avait été fait. Et qui de plus est, un mois avant la bataille de Mossoul, on avait eu deux blessés graves dans le groupe. Deux blessés graves qui avaient été rapatriés en France, où pendant les premiers jours, c'était état critique, pronostic vital engagé. Et moi, personnellement, j'ai cru qu'au moins pour l'un d'entre eux, que je le reverrais jamais vivant. Et du coup...
C'était comment ?
Ils avaient été blessés en périphérie de Mossoul, avant l'offensive, blessés par une attaque de drones piégés de Daesh. Du coup...
C'est-à-dire type munitions rôdeuses, quoi, de...
C'était plus rudimentaire, plus simple. Hein. C'était un drone avec de l'explosif piégé dans des compartiments déguisés qui peuvent faire penser qu'il n'y a rien dedans. Ils mettent quelques dizaines de grammes ou quelques centaines de grammes. Ils font en sorte de simuler une panne, si vous voulez, au-dessus des lignes partenaires. Et puis après...
De simuler quoi, une panne de drone ?
De simuler... En fait, le drone tombe dans nos lignes. Ouais. Et après, on peut revenir, si vous voulez, plus en détail sur...
Non, mais raconte tout ça maintenant.
En fait, ce qui s'était passé, c'est qu'on était sur une mission d'observation. Voilà. Donc on était dans nos bunkers, sur notre ligne de front, derrière nos barbelés, et on observait l'ennemi à plusieurs centaines de mètres, voire plusieurs kilomètres. L'utilisation de drones. Bon, l'utilisation de drones pour la coalition, c'est un mystère pour personne. Depuis la guerre du Vietnam, il y a utilisation de drones, donc il y avait utilisation de drones. Ce qui était peut-être nouveau avec l'État islamique, c'est que avec l'essor des drones commerciaux, en fait, ils ont acquis toute une gamme de ces drones-là, qu'ils ont tenté de modifier par leurs spécialistes. Dans un premier lieu, comme l'aviation à ses débuts, pour faire de l'observation du renseignement. Après, ils se sont dit qu'ils pouvaient valoriser, qu'ils étaient plus aisés, donc comment en faire une arme. Donc, il y a le drone kamikaze qui peut exploser à l'impact, il y a le drone piégé avec différents modes de mise à feu, il y a le drone qui peut prendre une grenade ou une charge explosive et qui peut la larguer à l'endroit voulu. Et du coup, il y avait l'utilisation de drone. Donc le drone était au-dessus de la ligne de front, des deux côtés, était pas... Ça n'avait rien de surprenant. C'était pas obligatoirement quotidien, mais c'était récurrent.
Vous n'essayez pas forcément de le désinguer tout de suite dès qu'il y avait un drone qui arrivait ?
Si, bien sûr. Mais après, il faut savoir, les partenaires, ce qui était fait en face, ils le faisaient aussi. Donc en fait, les partenaires, ils avaient accès au même drone. Donc en fait, les gens achetaient la même chose pour faire...
Vous ne pouviez pas déglinguer tous les quadcoptères qui existaient, parce que si ça se trouve, c'était aux copains, quoi.
Complètement. On ajoute sur ça les médias qui avaient utilisé aussi les drones. Donc en fait, c'est ce que vous dites, on ne pouvait pas descendre tous les drones qui passaient à notre portée. Donc dès qu'il y avait... et tout ce qui était fusil anti-drone et tout, on en est vraiment au balbutiement. C'est ce théâtre-là qui a déclenché le besoin. Hein. Et du coup, on était vraiment en balbutiement. Et il n'existait pas ce genre d'outils, ou il existait très peu, ou c'était en développement, ou c'était des choses trop.
Littéralement, vous essayez de les dézinguer au fusil mitrailleur.
Exactement.
C'est facile ?
Non. Mais ça se fait. On a un opérateur du groupe qui est à la 762 qui a réussi à en mettre un par terre.
Ah ouais, mais un.
Un seul, ouais. Mais bon, il y avait l'utilisation de drones, mais il n'y avait pas 10 drones tous les jours au-dessus de toutes les positions. C'est pendant 3-4 jours, il n'y avait rien. Puis peut-être pendant 2 jours, ils viennent rôder 2-3 fois par jour. Voilà. Donc,
et donc là, un jour, il y en a eu un.
Nous, on était en observation sur une partie du front. Donc, c'est des 3-8. Hein. Il y en a qui observent, il y en a qui font les comptes rendus, il y en a qui sont en repos pour pouvoir durer plusieurs jours. Et on se met sur différents points de la zone de front. Le même module se met sur plusieurs points distants de plusieurs dizaines de mètres ou plusieurs centaines de mètres pour couvrir une zone la plus large possible. Et du coup, ce qui se passe, c'est que ce jour-là, on voit deux drones. Deux ou trois drones. Et on alerte, on demande aux partenaires. Et là, c'est une problématique parce qu'à l'endroit où on était précisément, il n'y avait pas assez de traducteurs. Donc autant du traducteur anglais, les langues parlées là-bas, ça se trouve assez facilement, autant langues parlées là-bas français, c'est moins commun. Donc je veux dire, dans notre poste d'observation, on n'avait pas de traducteur. Donc on passe... par la langue anglais. Donc nous, anglais, on maîtrisait bien parce qu'on a plusieurs personnes dans le groupe qui parlaient un anglais, un bon anglais, voire très bon, notamment un avait vécu aux États-Unis, donc pas de souci de ce côté-là. Par contre, de l'autre côté, suivant qui est-ce que vous avez à l'instant T, bah, vous avez des gens qui parlent un anglais teinté de leur accent et en fait, on se comprend pas forcément.
Ouais, donc en fait, ça rajoute de la friction à un truc qui est déjà compliqué de savoir si le drone, c'est à eux ou pas, ou s'il est dangereux. Quoi.
Voilà. Donc le drone, il y en a deux. Et en fait, nous, on se dit, on est capable de tenter éventuellement une neutralisation, enfin une destruction du drone. Là, le partenaire nous dit, non, c'est vague, on sait pas à qui c'est, voire c'est à nous. D'accord. Bon, bah, ok, c'est à vous. Oui, c'est à nous. C'est flou, hein, mais ok, bon, ça a l'air d'être. Finalement, le drone tombe en panne, au-dessus de les lignes, il tombe. Là, il y en a un qui est tombé. Bon, bah, on a l'information, il y en a un qui est tombé. Si c'est le leur, pas de problématique. Du coup, les membres des partenaires récupèrent le drone. Et en fait, le ramène dans notre secteur. Et au moment où il le ramène, donc il y a des gens de chez nous qui s'aperçoivent, le drone, vous l'avez ramené, vous allez le réparer. Et là, les personnes disent, non, en fait, c'est pas notre drone. Depuis tout à l'heure, vous nous dites que c'est votre drone. Et en fait, avant qu'il soit possible de lever ce doute, par curiosité, par précipitation, donc ces partenaires qui ramènent le drone commencent à le démonter. Et en fait, il s'avère que c'était un drone qui était piégé au démontage. Donc en fait, ça explose. Donc nous, on avait deux personnes qui étaient pas sur le drone, qui étaient éloignées, hein, plus d'une dizaine de mètres, qui sont blessées, gravement blessées en fait.
Parce qu'on imagine que ceux qui avaient le tournevis à la main, ils s'en sont pas sortis.
Ils s'en sont pas sortis, donc les partenaires qui ont récupéré le drone s'en sont pas sortis. Donc nous, branle-bas de combat, on se rend compte qu'on a deux mecs à nous toucher. On passe sur une phase de médicalisation, pendant qu'il y en a une partie de l'équipe qui continue l'observation pour voir s'il n'y a pas une attaque coordonnée qui se ferait déclenchée par cette explosion. Il n'y a pas eu d'attaque coordonnée hein, suite à cette explosion. Donc médicalisation, dans le même temps médicalisation des blessés du partenaire. Nous les gars, Il y en a un qui est très mal en point, il y en a un qui est mal en point, mais on n'estime pas que le pronostic vital soit engagé. On demande une Medevac fournie par la coalition, et on est obligé en fait de faire un petit bond en arrière de quelques kilomètres pour trouver une zone idéale pour le poser des hélicos qui viennent chercher. Une partie du groupe reste sur la ligne de front, la mission continue. L'autre partie descend avec les blessés sur la zone de posée et confie à la coalition nos blessés.
Ouais, donc on mesure qu'à l'échelle d'un déploiement, disons de cette bataille de Mossoul sur le temps long, ça avait été un premier temps fort, ce qui fait que c'est pour ça qu'on y arrivait, mais du coup quand vous arriviez à la fin du mandat, tout le monde était un peu sur la jante et c'est ça.
Oui, c'est ça. C'est concrètement, l'état-major nous a proposé de rentrer suite à ça.
Blessure sur le moment.
Ils nous ont demandé est-ce que la mission est avec deux personnes en moins, on pouvait la poursuivre, ce qui était le cas. Et est-ce que certains titres individuels ou l'ensemble du groupe voulaient rentrer, c'était pas du tout, c'était pas envisageable pour nous, quoi. On était là, on continuait. On avait reçu un coup dur, mais on n'était pas à terre. Donc on a décidé de rester pour finir le job, ne serait-ce que par respect pour nos,
pour
nos camarades.
Ça a rendu le fait que vous partiez quand vous êtes parti acceptable, quoi. C'était peut-être il était
oui.
temps, quoi.
Ouais, oui, on aurait pu continuer. Néanmoins, cette jauge de chance dans laquelle on ponctionne à chaque mission, on estimait que pour cette fois-là, elle avait quand même...
C'est comme ça que vous y réfléchissez ? Il y a une quantité de...
Ça dépend, chacun...
Vous ?
Les gens, je pense qu'on a... En fait, l'entraînement, on est extrêmement entraîné, donc il y a beaucoup de situations où le danger est pallié ou contenu de par l'entraînement, de par nos réactions, de par des choses qui sont devenues des réflexes. Par contre... c'est la guerre, donc en fait il y a toujours une part de chance. Quand je dis tout à l'heure qu'on se retrouve avec le rétroviseur qui est percé d'une balle, à côté du rétroviseur il y a les vitres de véhicule, de l'autre côté des vitres il y a la tête, donc en fait là c'est une histoire de chance, quelques dizaines de centimètres. On a une dose de chance, on a une jauge. Des fois, elle diminue et au bout d'un moment, on n'en a plus. Oui, peut-être que je le prenais comme ça, mais c'est comme ça. De toute façon, c'est la guerre. Il y a obligatoirement du hasard, la chance. Les gens l'appellent comme on veut, mais il y a une part de facteurs qu'on peut pas... immaîtrisable.
Merci beaucoup, William.
De rien, avec plaisir.